Bonjour, vendredi 21 juillet, notre dernière journée de la semaine et ce sera le début aujourd'hui des fameuses vacances de la construction. Pour ceux qui vont entamer ces vacances estivales, je vous les souhaite bien bonnes. Ce sera des vacances à venir pour d'autres alors que pour plusieurs, c'est déjà fait. Et bien sûr, il y a ceux aussi qui le sont à l'année pour toutes sortes de raisons, alors que vous soyez à la retraite ou autre. Cela dit, pas toujours facile de s'accorder un moment de pause à l'extérieur durant l'été, mais j'espère que vous profitez bien de petits moments à la maison. Alors je vous invite à nous suivre pour la prochaine heure. Où que vous soyez, c'est un plaisir de vous présenter nos sujets, nos invités, nos chroniqueurs. Et on rencontre aujourd'hui un couple d'aviculteurs hors du commun. Notre chronique aînée qui nous revient est des nageurs qui s'apprêtent à relever un nouveau défi dans les prochains jours. Jusqu'à 13h, c'est Aime l'été. Et au menu de l'émission, il sera question d'un événement qui nous revient depuis plusieurs décennies, la célèbre traversée du lac Saint-Jean. Nous allons parler non seulement de la compétition, mais aussi de la programmation entourant les événements sportifs avec Jessica Tremblay, présidente du conseil d'administration. Notre chroniqueuse José Blondin, psychologue au service des aînés, viendra nous entretenir d'un autre beau sujet concernant les défis du vieillissement. Aujourd'hui, il sera question d'isolement et d'identité. Mais d'abord, nous allons faire la rencontre inusitée d'un couple d'aviculteurs non-voyants qui se sont lancés dans la production d'œufs de canne en estrie. Leur entreprise à la canne blanche est le fruit d'une détermination hors du commun. On en discute avec eux dans les prochains instants. L'émission Aime l'été. Voilà un autre beau rendez-vous. Alors voilà, j'espère que vous êtes en grande forme. Eh bien, on accueille justement Daniel Bonnet de La Canne Blanche. La Canne Blanche, c'est l'histoire singulière d'un couple de personnes non-voyantes qui ont créé leur propre emploi et ont persévéré malgré les écueils. J'accueille Daniel Bonnet parce que Marie Sauvé, malheureusement, ne pourra être des nôtres. Bonjour Daniel Bonnet.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien. Écoutez, Maryse, doit aller au chevet de sa mère, effectivement. Bon, sa mère qui est malade, qui est à l'hôpital, je pense. Oui. Alors, on est de tout cœur avec elle. Et puis, Daniel Bonnet, je voulais absolument vous recevoir parce que, je vous ai déjà entendu en entrevue et je connais un peu votre histoire, tout ça. J'ai regardé d'ailleurs un documentaire qu'on avait fait à votre sujet, absolument incroyable. Et puis, c'est un beau projet, quoi. Et je voulais qu'on raconte cette histoire qui est une très belle histoire. Et puis, je sais aussi que vous êtes appelé à grandir davantage. En fait, c'est votre souhait aussi. Alors, je pense que vous êtes même à la recherche de fonds. Vous êtes aussi en sociofinancement, je pense, pour aller chercher plus de fonds pour agrandir votre ferme avicole. Donc, on va en parler de votre histoire. Donc, Daniel, c'est ça, vous êtes tous les deux non-voyants, Maryse et vous-même. Et c'est ça. Bon, Maryse, elle, c'est dès l'âge à peu près de 16-17 ans. Je pense que c'est au niveau de la dystrophie des cônes et des bâtonnets. Et du glaucome congénital. Alors, c'est bien ça. Et ça a commencé très jeune dans votre cas aussi.
Oui, moi, ça a commencé dès la naissance. J'ai eu 29 opérations de l'âge de 2 à 5 ans. Ça a commencé très jeune. Et là, on m'a sauvé la vue. Jusqu'à l'âge de 20 ans où là, je suis devenu aveugle du jour au lendemain.
C'est ça, vraiment, presque du jour au lendemain, en effet. Là, c'est vraiment une question de... Ça a été très, très rapide. Là, vous êtes levé un matin et puis, vous aviez l'impression de regarder comme si vous regardiez à travers un papier-mouchoir.
Absolument. Ça l'a fait ça le premier matin, ça s'est replacé après un café, puis le lendemain matin, ça s'est jamais replacé.
Bon, alors voilà. Puis dans le cas de Maryse, d'une part, vous êtes ensemble, vous arrivez à une période de votre vie où les enfants ont quitté le foyer, vous cherchez un sens à votre vie aussi, puis c'est pas facile, évidemment, quand on est non-voyant, de se trouver un emploi. Alors là, il y a comme un petit passage à vide et finalement, arrive, bon, la fille de Maryse, elle arrive avec un petit, une petite canne, hein, c'est ça?
C'était deux cannes et un canard, oui.
D'accord.
Oui.
Et puis finalement, là, ça a été le coup de foudre, bon, la relation qui s'est installée entre Maryse et ses petits canards. Alors, ça a été un déclic. Son père, je pense, était décédé auparavant. Alors, finalement, elle a eu le flash de vous dire, bon, ben moi, je veux devenir... je veux qu'on devienne des producteurs d'œufs de canne.
Exact. C'est exactement ça. C'est là, elle voulait me rapatrier à la maison. Moi, j'étais sur la route. Je donnais mon temps à la Fondation Mira. Donc, je passais 4 à 5 jours par semaine à l'extérieur pour les levées de fonds. Et c'est ce qui nous a permis de ce qui lui a permis de me rapatrier à la maison.
Oui, c'est ça. Donc, et puis là, elle avait tout un projet pour vous, assurément. Donc, c'est un projet qui commence quoi? En mars, à peu près mars 2018?
Absolument. Oui, on a commencé le plan d'affaires. On a commencé à mettre ça au sérieux en mars 2018 pour déposer le plan d'affaires en juin 2018.
Alors, donc, c'était, en fait, puis là, pour préciser, les petits canards en question, là, c'était des coureurs indiens. C'est le plus grand canard pondeur de tous les canards.
Bien, c'est un des plus grands pondeurs, absolument. C'est une des plus grandes pondeuses. C'est au naturel. Et c'est des oiseaux assez uniques là, qui marchent debout. C'est ce qu'on appelle le canard pingouin.
Oui, donc, c'est vrai, ça ressemble à des pingouins, vous avez raison.
Comme le petit Saturnin quand on était jeune. Saturnin oui. Qui était un coureur indien.
Alors vraiment, et puis donc c'est ça. Elle a dit, moi je veux faire ça. Et maintenant, ouais. vous vous êtes mis à la recherche. Ben, vous étiez complémentaire dans vos recherches. Elle, oui. Bon, vous occupiez un petit peu plus de la logistique, là, des statistiques, de savoir combien ça coûte.
Exactement, exactement. Moi, j'étais tout le côté financier, le coût de production, le coût de bâtiment. Maryse était beaucoup plus à la recherche de ce qu'elle apporte l'œuf, comment commercialiser l'œuf et tout ça.
C'est ça, vraiment, puis savoir comment ça fonctionne, comment on élève des canards, comment on en arrive, aussi, vous deviez déterminer combien de cannes vous aviez, de cannes pondeuses vous aviez besoin pour vivre, hein? Puis là, vous vous êtes mis dans la rédaction de votre projet, votre plan d'affaires, et vous avez eu un peu de soutien quand même, parce que c'est pas évident de rédiger tout ça. Quoique Maryse voit quand même un petit peu, là. Elle peut aller sur Internet quand même.
Oui, on va sur Internet toutes les deux grâce à des applications qui nous aident et notre téléphone avec Apple qui a le VoiceOver. Bien, le VoiceOver va nous permettre toutes ces synthèses vocales-là qu'on a aussi sur l'ordinateur avec mon Jazz, va nous permettre à nous de faire nos recherches sur Internet. Donc ça n'a pas été un arrêt, ça a été surtout pour rédiger le plan d'affaires lorsqu'on fait des gros plans d'affaires comme ça, pour que tout se tienne et qu'on répète pas trop, bien là, quelqu'un, il y a un ami Daniel qui est venu nous aider à tout mettre ça en page et de faire quelque chose qui était lisible, qui était plus facile à lire pour un voyant.
Exactement, parce que là, ça prend un plan d'affaires. Vous approchez la MRC dans un premier temps, qui a été un peu surpris par votre projet. Bien sûr, c'était un peu inusité que des non-voyants décident de se lancer comme ça en affaires. Mais bon, ils ont quand même collaboré assez rapidement.
Oui, oui, la MRC est encore au projet, toujours ici pour nous appuyer dans nos démarches. Mais écoutez, chaque palier qu'on a à laquelle on a été cogné est toujours surpris du fait qu'on est deux personnes aveugles qui s'occupent uniquement de la ferme. Et en plus, c'est aussi le type de ferme que l'on a. On est les seuls au Québec qui sont producteurs d'œufs de consommation, d'œufs
oui.
de canne de consommation. Donc, c'était dans les deux sens, là, on est assez unique.
C'est ça, parce que les œufs de canne, hein, c'est très nourrissant, vraiment. Et puis, c'est ça, il y a des pays où on mange pratiquement que ça, des œufs de canne.
Absolument, absolument. Il y a des pays où qui vont garder la poule plus pour le manger, pour la chair, et ils vont garder la canne pour pondre. Une canne est beaucoup plus facile à garder en hiver, est beaucoup plus, vous savez, le pelage d'une canne. Est fait pour vivre en hiver, donc une canne n'aura pas froid. Donc, il y a beaucoup de pays plus pauvres qui vont garder les cannes pour les œufs et qui vont prendre le poulet pour la chair.
C'est ça. Donc, ça suppose que, bon, là, vous deviez en fait approcher la financière agricole pour avoir du financement et tout. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a mis plus de temps que vous pensiez, hein?
Oh mon Dieu, oui. Ben, habituellement, des projets, des demandes comme nous, là, un bâtiment, on demandait 110 000 $ pour la construction du bâtiment. Habituellement, c'est des projets qui vont assez rapidement. Dû, nous, à, comme je vous disais, là, les deux côtés uniques, le fait qu'on soit deux personnes aveugles et le fait qu'on soit dans un domaine que la financière connaissait pas beaucoup, ben ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Non pas une semaine ou deux, mais plus un mois ou deux.
Oui, c'est ça. De telle sorte que vous vous êtes retrouvé avec ces délais, ben vous vous êtes retrouvé à devoir construire en hiver.
En plein hiver, madame. Il annonçait que c'était l'hiver la plus froide dans les 100 dernières années. Écoutez, en 2018-2019, cet hiver-là, là, à tous les jours, c'était des moins 20 et plus froid. Ça a été un hiver, écoutez, c'était les deux. On avait tellement l'adrénaline de faire ça, mais aussi, écoutez, on a vécu des moments pas mal plus... dans le temps des fêtes, là, je peux vous dire que la morale était pas mal plus bas. Là on était physiquement assez atteint par le froid et tout ça, puis la fatigue. Et, oh oui, ça a été tout un hiver.
C'est ça, effectivement. Puis bon, je regardais le documentaire. Bon, ça se voit pas trop, mais vous le dites quand même. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, bon, il fallait construire cette canardière, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis, vous avez eu le soutien d'amis, de gens de la famille. On est venu vous aider. Je pense que vous étiez d'ailleurs très ému de tout cela.
Ah, très ému. Écoutez, à la Canne Blanche, c'est un projet que nous, on a mis un projet de vie, mais que les gens sont venus s'y attacher rapidement. Les gens ont pris ce projet de vie-là aussi comme leur projet. Écoutez, ils sont encore là. On a encore plein de gens autour de nous. Ça a créé une communauté assez extraordinaire. Écoutez, on ne peut plus lâcher. C'est ce qui me motive à tous les matins. Mes cannes qui sont extraordinaires, je les aime tellement. Puis tous les gens qui croient en nous, qui sont là, qui tiennent à bout de bras, là, tout ce projet-là. Ça n'est que plus motivant.
C'est ça, je pense à un type, Jocelyn Sadorge, je pense. Oui. C'est ça, qui est très un jeune, qui est très impliqué. Puis vraiment, il était très impressionné. D'abord, il n'en revenait pas que vous puissiez faire autant de choses vous-même. Hein. Vous êtes très, très habile, Daniel, de vos mains. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi malgré votre handicap, c'est fou.
Ben écoutez, j'ai appris avec le temps ce que le temps apporte, hein, c'est l'expérience apporte, c'est que tu sais les choses que tu peux faire et tu ne t'attardes plus sur les choses que tu ne peux pas faire. Moi, de m'attarder, de dire maudit, je suis pas capable de faire ça, on laisse ça de côté, on s'intéresse à ce qu'on peut faire et on essaye de bien le faire.
Écoutez, je vous voyais, là, Maryse et vous, sur le toit. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Vous êtes capable d'aller visser un toit. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment impressionnant. Et puis là, continuez, oui.
Non, ben c'est ça. Vous savez, c'est seulement la patience. C'est sûr que je ne serai jamais aussi rapide que n'importe qui, qu'une autre personne. Sauf qu'avec le temps, la patience, c'est ça. On y arrive.
C'est ça. Puis vraiment, moi, ce que j'ai senti aussi, puis vous l'exprimez très bien, c'est cet enthousiasme. Parfois, vous étiez inquiet, bien entendu. Hein? Vous avez passé peut-être des mauvais quarts d'heure à être inquiète, Maryse aussi. Mais vous avez aussi eu de l'excitation, de la joie. Quand vous allez dans vos marchés, là, les marchés où vous vendez vos œufs, ça, c'est votre premier marché. Vous étiez tout excité.
Ah, écoutez, je peux-tu vous dire que depuis 5 ans, on est vivant en tabarnouche, OK? Ça, là, c'est on passe par des excitations incroyables, par des inquiétudes. Écoutez, après 5 ans, encore aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le coût de la vie, tout ça, on a des moments d'inquiétude. Et surtout que là, on est à une croisée des chemins où, tu sais, pour pouvoir continuer à la Canne Blanche, il faut devenir absolument autonome. Donc, ici, on vend 300 000 œufs par année environ. Oh. Et là, pour l'instant, on a des cannes qui sont dans une autre ferme, mais cette ferme-là va arrêter éventuellement de nous fournir. Donc, il faut absolument, nous ici, devenir autonomes pour pouvoir continuer à avoir la pérennité de l'entreprise.
C'est ça. En fait, vous aviez au départ à peu près 600 ou 700 cannes. Hein?
700 cannes.
Oui, 700 pour, en fait, pour votre canardière. Maintenant, vous pensez que vous allez devoir, pour survivre, vous allez devoir augmenter ce chiffre-là pour que ça devienne rentable, vraiment.
Bien, écoutez, c'est seulement parce que là, les œufs sont vendus. Ce que ça nous prend, nous, ici, présentement, les 700 cannes qu'on a dans la ferme ne sont pas tous des pondeuses. On doit toujours avoir de nouvelles. Vous savez, il faut recycler notre lot de pondeuses. Donc, on se retrouve souvent avec la moitié de la canne. Donc, 350 cannes qui pondent et 350 qui sont dans le cycle d'attente d'arrivée à la pompe. Donc, c'est 25 semaines. Ça prend 25 semaines d'emmener une canne à la pompe. Donc, c'est ce qui arrive, c'est que on veut amener à ce bâtiment-là soit uniquement dédié à la pondeuse. Donc, 700 cannes qui seraient pondeuses, ce qui nous amènerait à avoir un bâtiment qui nous donnerait au-dessus de 225 000 œufs par année.
Ouais.
C'est ça. Le nouveau bâtiment est un bâtiment qui serait dédié au bébé, au départ, qu'on appelle des cannes, et à la mue. Donc, entre deux cycles de pondes.
Alors, c'est essentiel, c'est ça, donc, pour finalement que le projet devienne rentable, parce que vous gagnez votre vie avec ça, et c'est quand même important, là. Bon, maintenant, c'est sûr que vous avez gagné des prix, hein, vous avez été récompensé, je pense, le concours Ose entreprendre, alors, on vous a choisi.
Prix du public,
Le prix du public, vraiment extraordinaire, bravo pour tout ça. Et puis,
merci.
Donc, c'est ça. Je vous souhaite, en tout cas, d'aller chercher ce que vous avez besoin. Vraiment, grande satisfaction pour vous, grande fierté. Ah. Mais évidemment, il y a des défis encore qui vous attendent. Vous étiez déjà un entrepreneur dans l'âme quand vous aviez 20 ans, mais bon, ça vous a bien servi.
Ben absolument. Puis écoutez, vous savez, l'essentiel, c'est qu'à tous les jours, on se réalise puis on se sent accompli. C'est ce qui est le plus important, c'est de ne. On voulait pas rester ici assis à attendre que la vie passe. Moi, comme je dis tout le temps, je veux pas qu'à mon décès, ce soit marqué Daniel Bonin, il était aveugle. Je veux que ce soit Daniel Bonin et il l'a fait.
Exact. Alors, fierté de gagner une autonomie, de prendre sa place dans la société. Très important pour vous et pour Maryse Sauvé. Alors, bravo. Ouais. Et puis bon, est-ce qu'on a un site? On va sur votre site si on veut.
Sur notre Facebook, à la canne blanche, le GoFundMe qui est là pour le socio-financement qui est sur la page. Puis écoutez, par courriel, on peut nous rejoindre aussi à la canne blanche à gmail.com. Il n'y a pas de problème, on répond à tout le monde. Puis écoutez, on invite les gens à nous donner surtout un coup de main, mais surtout aussi invite les gens à réaliser leur rêve.
Colin. Exactement, parce que vous êtes un bel exemple, très inspirant, tout ça pour bien d'autres gens. Alors vraiment, alors d'ailleurs, j'invite les gens à aller fouiller un petit peu. Vous allez trouver facilement le documentaire. Ça a été tourné autour de 2018, là, quand vous avez construit la canardière.
Oui, ben on peut faire Ami Télé qui était le producteur de notre documentaire. Donc, c'est facile à trouver sur Internet.
Parfait. Merci beaucoup, Daniel Bonin.
C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite de passer de bel été.
Merci, vous aussi. Saluez Maryse pour nous. Au revoir.
Ça va être fait. Merci. Au revoir.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me, So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
The Lucas Graham, 7 years.
Bon, alors voilà, c'est le temps d'accueillir notre chroniqueuse Josée Blondin, psychologue au service des aînés, qui nous parle aujourd'hui du besoin de sécurité. Bonjour, Josée.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour, ben oui, ça me fait plaisir, merci.
Bon.
Je suis contente d'être de retour pour vous parler justement de ce besoin de sécurité.
C'est vrai pour tout le monde, mais c'est vrai, bien sûr, encore davantage quand on vieillit. Hein?
Exact. Et vous souvenez, la semaine passée, j'ai abordé la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow.
C'est ça, la pyramide de Maslow, oui, c'est vrai.
Exactement. Puis là, j'aimerais revenir sur cette pyramide-là parce que le besoin de sécurité, c'est pas juste le besoin de sécurité physique, c'est pas juste un besoin de sécurité financière. C'est aussi lié étroitement à l'aspect social puis à notre identité.
Ouais.
Et c'est sûr que ça change en vieillissant.
Ah, ça, c'est vrai. Notre perception de nous-mêmes et puis notre estime de soi. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, là.
Exactement. Et quand on arrive à notre besoin de sécurité, quand je parle de l'aspect social, c'est l'idée, hein, c'est nos racines aussi. Donc, c'est de voir, bien, OK, qui continue, là, tu sais, qui va m'entourer finalement. Et là, il y a le risque aussi pour certaines personnes de s'isoler aussi quand on vieillit.
Oui, c'est ça. Ça peut entraîner effectivement de l'isolement. Tout à fait.
Tout à fait. Et l'idée, c'est en vieillissant, tu sais, il faut comprendre, c'est comment on arrive à briser cet isolement-là. Et l'être humain, à la base, c'est un être émotif, mais surtout, c'est un être qui est social. Donc, on a besoin de s'entourer quand on vieillit, surtout au niveau d'avoir des relations de confiance. Tu sais, que ce soit notre famille, des amis, notre conjoint-conjointe. Donc, c'est important de bien s'entourer. Mais
ouais.
Attention, Chantal, chaque personne quand même a un degré différent de sociabilité.
Oui, bien, il y a ça. Parce qu'en fait, on a tous besoin de repères. Hein? Alors, ces gens-là qui nous entourent, fondamentale, hein, bien sûr, pour qu'on puisse avoir nos repères. Mais c'est vrai que quand ben, on s'aperçoit qu'en vieillissant aussi, il y en a qui perdent des amis. Il y a toutes sortes de... Enfin, on se retrouve un peu plus seul. C'est-à-dire que là, ça s'effrite. Hein? Si on ne travaille pas, ben, tu sais, nos camarades de travail, j'allais dire nos camarades de classe, nos camarades de travail, bien sûr, hein, c'est une façon de socialiser. Mais quand on n'a plus le travail, ça fait un vide.
Mais exactement. Et je pense qu'il y a un avantage quand même en vieillissant, c'est que, tu sais, nos collègues de travail, on n'a comme pas le choix, là, mais en vieillissant, on peut faire par la suite le choix des amis ou de l'entourage qui vont être autour de nous, finalement. Ce que je dis affectueusement, on peut faire le ménage hein, dans nos relations aussi.
Ben sais. Oui, mais comme nos relations, ben, comme je vous dis, peut-être ça peut être des décès, mais ça peut être toutes sortes de choses. Des fois, on se perd de vue pour toutes sortes de raisons parce qu'on n'a plus quelque chose en commun qui nous liait. Parfois, c'est comme je le disais, c'est le travail. Mais comment aussi se refaire un réseau aussi d'amis, de connaissances?
Exact. Tout à fait. Ça, c'est un super bon point, Chantal. Je pense que c'est là qu'il faut regarder, OK, c'est quoi les intérêts que j'ai? Et là, trouver des groupes qui pourraient avoir des intérêts similaires aux miens, finalement. Tu sais, ça peut être des groupes de randonnée pédestre pour les personnes qui sont plus actives. Ça peut être des groupes de voyages organisés. Tu sais, on aurait un intérêt similaire qui serait le voyage, la découverte. On pourrait joindre des ligues aussi, par exemple, de bowling, de pétanque, de couture. Tu sais, c'est le temps là, de penser, c'est quoi qui m'intéresse finalement, et là, de pouvoir aller de l'avant pour identifier des groupes qui partagent ces intérêts-là.
C'est sûr que si on a une longueur d'avance, hein, si on y pense, là, vous en parlez maintenant, José, donc ça peut, même les gens qui ne sont pas encore tout à fait à la retraite, là, ou enfin qui ont encore quelques années devant eux, peut-être, mais bon, on peut déjà se dire, oui, c'est important, il va falloir que je cultive ça dans l'avenir parce que je vais me retrouver peut-être dans cette situation-là, un peu d'isolement, finalement. Et comme j'ai besoin d'avoir ce sentiment de ce besoin de sécurité affective, là, ben il faut que j'y pense, ouais.
Exact. Et c'est important, dans le fond, ce besoin-là est important pour bien se définir puis se reconnaître aussi dans ce qu'on est. Donc, pour ceux là, qui préparent leur retraite ou qui sont comme pas encore à la retraite, c'est d'excellents éléments à commencer à se poser comme question aussi. Là. Moi, j'avais un de mes clients qui disait, Josée, je ne me vois pas comme retraitée. Je me vois comme une personne active qui va avoir plus de temps de loisirs. Donc, évidemment, il va cibler des groupes qui vont être des groupes plus actifs ou des personnes qui vont être plus actives aussi pour partager des intérêts communs avec lui. Et que c'est peu importe le moment, à un moment donné, il faut voir, OK, qui m'entoure et avec qui j'ai le goût de partager ces intérêts-là aussi. Qu'est-ce qui m'identifie, comment je m'identifie comme personne aussi?
Exactement. Ben José, on va continuer notre conversation dans les prochaines minutes. On s'arrête le temps d'une pause et puis on repart avec d'autres idées là-dessus. À tout de suite. À tout de suite.
Vous écoutez Aime l'été.
Et à l'instant, nous retrouvons Josée Blondin, psychologue au service des aînés, qui, dans sa chronique, nous parlait aujourd'hui du besoin de sécurité. Alors, Josée, j'avais juste une petite idée comme ça. Je pensais à votre fameux client qui ne se voyait pas comme retraité, mais quelqu'un qui aurait juste plus de temps de loisirs. Donc, pensez peut-être à des groupes qui pourraient avoir des intérêts similaires aux siens. Mais en fait, je me dis, évidemment, on ne connaît jamais l'avenir non plus. Hein. C'est facile à dire, bon, moi, je vais j'aime la randonnée, bon, ben, je vais m'associer à des gens qui aiment la randonnée. Mais évidemment, des fois, notre vieillissement, on ne le connaît pas d'avance. Et puis, on peut avoir des limitations, on peut avoir des problèmes de santé. Alors, tu sais, il faut être ouvert aussi. Il faut aussi saisir, en fait, je veux dire, quand on arrive, quand on traverse le pont, là, bon, faut aussi être ouvert à tout ce qui peut arriver de l'autre côté.
Mais exactement, mais j'ai le goût de vous dire, planifions, en fait, ayons des plans A, B, C, D. Mon père, lui, je vais donner ça comme exemple, mon père adorait, il appelait ça faire des tours de machine, tu sais, donc il adorait aller se promener en voiture.
Ouais,
tu sais.
Ouais, ouais.
Donc, et un jour, malheureusement, il n'a plus été capable de pouvoir conduire sa voiture, mais son plan B était de partir participer dans des voyages organisés, dans le fond. Donc, ils prenaient l'autobus avec un groupe, là, tu sais. Donc, l'idée, c'est justement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais on le sait qu'il y a des deuils qu'on va devoir vivre avec aussi. On le sait qu'on va intégrer le plaisir. C'est tous des sujets qu'on avait regardés. Donc, allons-y, dans le fond, plan A, plan B, plan C, hein?
Parfait, c'est ça. On... Effectivement, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et puis, bon, il y a toutes sortes de choses intéressantes aussi. Des choses qui... on ne pensait pas que ça allait nous intéresser. Puis finalement, on découvre plein d'autres trucs, en vieillissant. Maintenant, comment fortifier son estime quand on vieillit?
Oui, parce que certaines personnes peuvent éprouver aussi une perte de rôle ou de statut social, hein? Donc, avoir l'impression de ne plus avoir d'identité. Et l'identité, c'est vraiment la base aussi là, de notre sentiment pour monter dans la pyramide des besoins de Maslow.
Ouais.
Exact. Le summum de la pyramide qu'on veut tous atteindre, c'est la réalisation de soi, être pleinement épanoui. Donc, quand on n'a plus, on se recherche dans cette identité où on n'a plus ce sentiment-là d'utilité, je vais dire ça comme ça, ça peut mener aussi vers l'anxiété, vers l'isolement. Donc là, à ce moment-là, je dirais que c'est le temps de prendre un pas de recul pour identifier dès maintenant. Puis ça change avec le temps, là. C'est quoi ses passions? C'est quoi ses besoins? Et là, vous pouvez trouver d'autres voies pour vous investir dans de nouvelles activités. C'est comme si moi, par exemple, justement, en vieillissant, je me rends compte que, oups, c'est un peu la randonnée, c'est peut-être plus mon bag. Finalement, j'ai plus envie de faire ça ou j'ai plus les capacités de faire ça. Mais je peux, après ça, me voir, est-ce que j'ai d'autres passions? Puis ça va vous amener à peut-être découvrir de nouvelles opportunités pour vous épanouir, découvrir un nouveau rôle. C'est, par exemple, siéger dans un conseil d'administration d'un organisme en but lucratif si on veut pouvoir nourrir un besoin d'influence, par exemple. Être un accompagnateur auprès de d'autres personnes âgées. Si on veut pouvoir contribuer, notre besoin, c'est l'entraide. Donc, pour amener d'autres personnes vers un rendez-vous médical ou autre. Et là, j'ai le goût de vous dire, ne vous limitez pas. On a cette tendance-là, hein, Chantal, de dire « oui, mais ». Ah oui, mais je suis trop vieux.
C'est vrai. On se trouve toujours des raisons.
Oui, oui, on a le mais facile, tu sais. Là, j'ai le goût de dire « expérimenter ». Ça se peut que vous n'aimez pas ça, mais peut-être vous allez faire « oh, gadon, je viens de me découvrir quelque chose ». Puis j'ai le goût de vous dire, ben, si on veut encore plus briser l'isolement, trouvez-vous une amie, un ami, et là, donnez-vous un challenge, là, tu sais, pour expérimenter quelque chose ensemble, par exemple, tu sais.
C'est ça. D'abord, faut vaincre nos fausses croyances en partant, là. Bon, s'imaginer des scénarios, des idées qu'on se fait, là, comme quoi on ne peut pas faire telle chose, ou enfin, tu sais, il faut s'ouvrir, c'est ça.
Exact, tout à fait.
Alors donc, il y a des questions maintenant à réfléchir. Finalement, vous allez nous en soumettre quelques-unes.
Ben oui, à chaque chronique, hein, j'espère que ça vous amène à réfléchir, à avancer aussi pour les auditeurs. Dès maintenant, là, j'ai le goût de vous dire, prenez un pas de recul là, et dites-vous, là, OK, qu'est-ce qui me définit? Puis là, c'est simple, là, c'est voir c'est quoi les qualités ou les compétences que vous vous reconnaissez. Puis, si vous arrivez devant une page blanche, ben c'est peut-être le temps de faire contribuer un membre de la famille ou un ami pour savoir, hey, c'est quoi les qualités ou les compétences que la personne vous reconnaît. Et là, ça va vous amener à voir, OK, attends, j'ai telle compétence ou telle qualité, j'ai le goût d'essayer de faire telle chose, par exemple. Donc, par exemple, je me reconnais un talent ou on me reconnaît un talent de bricoleur ou d'artiste. Donc, là, je pourrais dire, bon, mais j'ai peut-être le goût, finalement, d'aller dans un cours de peinture, par exemple. Et là, si on veut pousser plus loin pour aller chercher notre identité, renforcer notre sécurité émotive, on peut se dire, bien, OK, mais avec qui je pourrais partager cette activité-là? Et quelle activité j'ai le goût de faire seule? Et lesquels j'ai le goût de faire avec d'autres personnes, qui peuvent être mon conjoint, ma famille, des amis? L'idée, c'est de voir que ça vous prend des activités pour vous, parce qu'à la base, vous voulez vous ressourcer, et des activités que vous allez vouloir faire avec d'autres.
Oui, exactement. Puis, donc, des activités, c'est ça, que l'on peut faire. Évidemment, faire des activités soi-même, ça, il peut y en avoir une multitude, mais l'important aussi, c'est d'en avoir où on peut socialiser. C'est très important pour toujours briser l'isolement.
Ben voilà, encore une fois, hein, c'est ça, c'est briser l'isolement tu l'as très bien dit, Chantal, c'est ça qu'on veut viser aussi. Et ça, même si en vieillissant, malheureusement, on a des pertes, comme tu l'as mentionné tantôt, on peut perdre nos amis par deuil, parce que aussi la vie a fait en sorte qu'on a peut-être moins d'intérêt. Il faut accepter ces pertes-là et il faut s'ouvrir vers d'autres rencontres parce que elles peuvent nous amener, c'est souvent le qui on rencontre qui nous amène à atteindre nos objectifs ou à nous épanouir aussi.
C'est ça. Donc, reconnaître, oui, ses limites, mais quand même essayer de dépasser ça, d'aller quand même chercher des compétences quand même qu'on a. Et puis, des fois, on minimise l'expérience qu'on a, qu'on a toutes ces compétences qui ont été acquises avec les années, ouais.
Mais oui, tout à fait. Et peut-être même la prochaine chronique, on poussera encore plus loin pour voir, OK, mais tout ce volet d'identité-là, notre sentiment d'appartenance, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme activité aussi? Donc, ça pourrait être même la prochaine chronique, Chantal.
Oui, ben c'est ça, je vous donne des idées. Bon, maintenant, une référence aussi. On pense à Jacques Salomé qui a quand même écrit là-dessus.
Exact. Jacques Salomé, il y a un petit livre que je trouve passionnant, là, c'est « La ferveur de vivre ». Donc, Jacques Salomé, dans ce livre-là, il revisite les questions qu'on se pose chaque jour, mais pour construire sa confiance en soi, voir comment aussi apprendre à vivre épanoui avec les autres, nos messages positifs aussi, donc comment se reconnaître aussi pour enfin, je vais vous dire, changer ou se redécouvrir.
Ouais, Jacques Salomé, un auteur vraiment très prolifique et puis très inspirant, et puis ça nous donne beaucoup de pistes de réflexion. Donc, en conclusion, vous nous gardez toujours une petite citation pour la fin?
Exact. Et donc, celle-ci, je poursuis dans le fond avec Jacques Salomé, dans le fond, puisque j'étais avec son livre, je vais poursuivre avec la citation de Jacques Salomé. Il faut beaucoup d'amour et d'humour pour bien vieillir.
Bon, ben c'est bien dit. Effectivement, et c'est ça, s'aimer soi-même hein, et puis cultiver l'humour, ça c'est très important. Bien sûr, on ne se prend pas au sérieux, mais évidemment, on reste ouvert à toutes sortes de possibilités pour bien vieillir toujours et c'est ça, toujours briser l'isolement, éviter enfin de se retrouver en isolement. Ben, merci beaucoup, Josée. Ça a été encore une chronique fort enrichissante, toujours très intéressante, évidemment, et puis ça nous fait réfléchir, quel que soit notre âge. Hein.
Mais merci, Chantal. Puis écoute, on se rejase la semaine prochaine.
Ben absolument, on sera au rendez-vous. Alors merci, Josée. Ça a été un plaisir encore une fois. Et puis, passez une bonne fin de semaine.
Merci.
Bye-bye.
Bye-bye.
Autant plonger puisqu'il faut. temps, suivre le courant et puis flotter au gré du cœur, se laisser glisser comme si la vie savait.
Joannie Benoît, plongée.
Plongée, oui, c'est le cas de le dire. Eh ben, j'accueille la présidente du conseil d'administration de la grande traversée internationale du lac Saint-Jean, événement incontournable de l'été. Alors, Jessica Tremblay, oui, bonjour.
Bonjour à
vous. Bon, alors, ben oui, ça vous allez bien?
Oui, ça va bien également.
Bon, ben oui, tout à fait. Et puis, comment ça se passe chez vous? C'est-à-dire que la météo, tout ça, comment ça se passe?
En fait, on est très fébrile de débuter cette édition aussi, là, qui va être notre 69e édition. C'est sûr que la météo, là, ça demeure quand même instable dans les temps qui courent. Donc, ça change très rapidement. Mais je pense qu'on devra débuter notre édition cette année sous la pluie demain.
Oui, bon, ben ça commence, en fait, parce que ça va se dérouler quand même, il faut le dire, sur plusieurs jours, là, parce que cette grande traversée internationale du lac Saint-Jean, bien sûr, on pense à l'événement, ce 32 kilomètres qui aura lieu la semaine prochaine, mais bon, dans les prochains jours, il y a quand même des compétitions, mais il y a aussi un volet spectacle, enfin, c'est quand même un événement complet, et puis, bon, vous avez succédé à Olivier Lévesque, qui occupait ce poste avant, mais vous avez, en fait, vous avez grandi avec la traversée, comme vous le dites.
Oui, moi, j'ai été bénévole dans plusieurs années avant. J'ai terminé les dossiers, si on peut dire, puis je faisais partie dans les 12 dernières années du comité organisateur. Donc, je programmais justement l'autre volet du festival, c'est-à-dire les spectacles. Donc, maintenant, ouais. C'est un nouveau défi. Mais je suis familière avec l'organisation, puis c'est certain que ça me tient.
Jessica, on va prendre une chance. On va mettre un petit pont musical, si on veut, puis on essaie de vous rappeler pour que peut-être la ligne soit meilleure. Qu'en dites-vous? Hein? C'est ça, on va essayer ça. On met un petit peu de musique, ouais. Et puis on vous rappelle tout de suite. D'accord.
Merci.
Alors, Jessica, vous êtes au bout du fil.
Oui, cette fois-ci, je présume que la ligne sera meilleure.
Ah, c'est merveilleux. Ben, c'est le fun de vous entendre, parce que évidemment, ça, sinon, ça ne rendait pas justice à l'événement. Alors, présidente du conseil d'administration de la Traversée internationale du lac Saint-Jean, Jessica Tremblay. Alors, ben, on disait que vous aviez grandi avec la traversée, que vous avez été bénévole, vous êtes beaucoup impliquée. Donc, c'était tout à fait naturel que d'accepter ce poste.
Tout à fait. C'est vraiment une organisation qui me tient à cœur. Puis, on essaie de la faire prospérer au fil des années. Puis assurer justement la pérennité de l'organisation, là, malgré les enjeux qu'on vit. Hein.
Bien sûr, ah oui, tout à fait. Alors c'est, mais alors c'est vraiment, c'est ça. Il y a des compétitions. Ben, évidemment, on va se rendre aux 32 kilomètres, mais ça c'est la semaine prochaine. Mais d'abord, toute l'histoire, hein, c'est quand même, c'est parti au début des années 50 que cette traversée. Je pense c'est Martin Bédard, un citoyen de Roberval, hein, qui comme ça contemplait le lac Saint-Jean, puis il a rêvé à cette fameuse traversée. C'est à la nage, finalement. Alors, c'est ça. Donc, c'est un peu grâce à lui, finalement, à sa ténacité, que ce projet-là est né. Mais cette grande traversée de 32 kilomètres. Et puis après ça, bien évidemment, il arrivera toutes sortes de réussites. Bon, évidemment, la première personne qui va réussir la traversée là, en 1955. Enfin, il y a toute une histoire là-dedans.
Tout à fait. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est la 69e édition, mine de rien. Et ça part effectivement là, d'un rêve que caressait Martin Bédard. Au départ, la distance qui était réalisée, en fait, était l'aller-retour du lac Saint-Jean. Donc aujourd'hui, oh, c'est le 32 kilomètres, mais c'était vraiment une distance qui était assez impressionnante. Là. Les nageurs partaient de nuit. Et bon an, mal an, on a accueilli quand même dans notre ville 481 nageurs au fil des années qui provenaient de 37 pays différents. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup d'histoire, en fait, la traversée.
Oui, c'est ça. Puis il y a une nageuse en 1984 qui a fait l'aller-retour de 64 kilomètres, une nageuse de 22 ans de Chicoutimi, enfin. Il y avait plein de ben, évidemment, des gens. D'abord, les nageurs internationaux disent toujours, si tu veux être le meilleur nageur au monde, tu dois remporter la traversée du lac Saint-Jean.
Exactement. Puis, en fait, le Pequagami est un plan d'eau assez imprévisible. Donc, ça fait partie des compétitions les plus relevées au monde parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. La veille, l'eau peut être super chaude et assez calme. Puis, le lendemain, bon, on se retrouve avec une température qui est froide puis des vagues qui peuvent aller de 3 à 4 pieds là, à certaines occasions.
C'est ça. Et donc, on est allé aussi de record en record, j'imagine. Bon, il y a Jacques Amyot qui a été le premier à réussir la traversée, ça c'était en 1955. Victoire par une femme en 1958. C'était lors de la quatrième traversée. Et puis Greta Anderson, je pense, donc, qui était des États-Unis. Et puis ensuite, ben c'est ça, il y a eu des records de temps, bien sûr, mm-hmm. pour la... Alors, c'est sûr qu'on l'a fait de plus en plus rapidement, j'imagine.
Oui, tout à fait. Puis le record actuellement là, est de 6h22 minutes 48 secondes, très exactement. Et cette année, on est heureux de constater qu'on a toute une qualité de nageurs. En fait, on a les meilleurs nageurs actuellement au monde en eau libre qui seront présents pour la traversée. Donc, on caresse secrètement l'espoir de peut-être battre ce record-là de 6h22 cette année.
Aïe, aïe, aïe. Ben, de toute façon, c'est que les performances des athlètes hein, aussi s'améliorent constamment. On le voit dans les différents jeux aux Olympiques et tout. Alors, ce serait pas étonnant. Ben, ça, c'est sûr qu'on va le dépasser un jour. Puis, il y a eu, évidemment, bon, des prix, des prix que vous avez remportés au fil du temps.
Oui, exactement. Donc, notamment sur le plan de la natation, là, plusieurs prix. Maintenant, nous sommes là, dans une organisation qui est différente de celle de la FINA, mais également au niveau des prix pour la portion populaire de l'événement, on a gagné à deux reprises de mémoire un prix pour notre caractère éco-responsable. Donc, on tente de s'améliorer justement en offrant aux participants un festival qui va être plus vert, donc en prohibant, par exemple, les bouteilles en plastique ou notre souper dans les rues qui accueille une dizaine de milliers de personnes. On a maintenant des ustensiles qui sont compostables. Donc, on fait des efforts comme ça. Puis, bien, ces efforts-là, c'est sûr qu'ils sont de plus en plus reconnus.
Exactement. Puis, enfin, c'est sûr que vous vous êtes classé quand même parmi les épreuves sportives les plus difficiles au monde. Alors, vraiment, coefficient de difficulté assez... assez remarquable, enfin assez difficile là. Et force psychologique aussi pour participer à cet événement. Comme vous le disiez, le lac, ça change continuellement. On ne peut jamais savoir d'avance. Et puis, bon, alors c'est à suivre. Alors, on va suivre, évidemment, cette épreuve de 32 kilomètres. Mais demain, là, samedi 22 juillet, donc, il y a des épreuves aussi de 1, 2, 5 et 10 kilomètres. Alors, événement qui touche différents groupes d'âge.
Tout à fait. Donc, on peut dire que cette compétition-là qui se déroule demain est un peu de cadet un peu plus amateur, mais il y a quand même des nageurs, là, par exemple, qui vont participer aux Jeux du Québec, qui se présentent d'année en année là pour faire une distance qui est, comme vous l'avez mentionné, 1, 2, 5 ou 10 kilomètres. On a également vendredi prochain une compétition là qui sera notre 31e édition du Marathon de la Relève Rio Tinto, qui est une... on part pas du même endroit, en fait. On va partir de la réserve autochtone qui est Mastouillatch, à proximité de la ville de Roberval. Donc, c'est une dizaine de kilomètres que les participants sont invités à accomplir. Ce sont tous des jeunes, en fait, du Québec, donc qui vont participer. 20 athlètes, on parle de 10 hommes et 10 femmes. On est très heureux de les compter parmi nous. Et c'est une compétition qui est également assez difficile.
Ah, ben c'est ça. Donc, il y en a pour tout le monde, bien sûr. Alors, c'est à suivre, c'est ça. Donc, à la fois demain pour ces épreuves de 1, 2, 5 et 10 kilomètres et aussi vendredi, le vendredi 28 juillet, marathon de la relève Rio Tinto. Et puis, bon, il y en a aussi pour les tout-petits, hein, je pense, mardi prochain. Il y a un peu d'initiation aussi à l'eau libre pour les 5 à 12 ans.
Oui, ben en fait, on appelle cet événement le défi plouf. C'est les enfants qui sont invités à franchir une courte distance là aux abords du lac Saint-Jean. Mais c'est toujours quelque chose qui est bien apprécié parce que des fois, ça fait germer une graine hein, en eux. Puis ils voient eux toute la semaine, ils voient des athlètes de haut calibre. Donc le fait de pouvoir eux-mêmes participer reçoivent également un cadeau de l'organisation. Des fois, on les revoit. Hein. Ça, c'est des efforts pour nous qui paient parce qu'on les retrouve plus tard dans les compétitions là, de plus haut niveau. Si je peux dire.
C'est ça. Et puis, il y a d'autres activités sportives, je pense, lundi, c'est ça, le 24 juillet, course à pied de la traversée.
Oui, hein, on est très heureux là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une course qui est très appréciée des coureurs. On a toujours un haut niveau de participation là, qui dépasse les 500 coureurs. Ça se déroule au centre-ville de Roberval. Puis, on a des distances, là, 1 km, 5 km, 10 km. Donc, c'est toujours une compétition là, qui est fort appréciée.
Et bien sûr, il y a aussi des événements comme des événements plus festifs comme souper dans les rues. Bon, ça, c'est le mercredi 26 juillet à partir de 17h. On est invité, quoi. On apporte notre lunch.
Ben, en fait, oui, il y a possibilité justement de réserver des tables là, pour ce mythique événement-là. Mais il y a également des commerçants qui participent, là, qui se situent aux abords de l'artère principale à Roberval, puis qui offrent justement la possibilité de pré-réserver des emplacements dans la rue et qui ils vont préparer une portion de tourtière. Ah. Le mets typique du souper dans les rues.
Oui, c'est ça, le mets traditionnel du lac Saint-Jean. Alors, évidemment, oui. On a tous des gens dans notre famille qui viennent de là, de toute façon, puis qui... Ils nous servent régulièrement, une fois par année au moins, leur fameuse tourtière du lac Saint-Jean. Ce n'est pas la tourtière ordinaire, c'est celle du lac Saint-Jean. Alors, c'est la personne qui va faire la meilleure tourtière du
Exactement.
Lac Saint-Jean.
Exactement.
C'est vraiment
On
quelque chose.
On est en mesure d'apprécier justement cette soirée-là qui fait la meilleure tourtière.
Voilà, c'est ça. Et puis, bon, évidemment, il y a toutes sortes d'aspects aussi. Je pense, vitrine en fête. Il y a les commerçants qui aussi vont mettre de la couleur dans les vitrines de la ville pour célébrer la traversée. Alors vraiment, c'est très festif à tous les niveaux.
Oui, tout à fait. On a également plusieurs activités qu'on appelle des paratraversées, là, qui sont des activités en parallèle, je pense, à des expositions de certains commerçants, des ventes de garage. Donc, c'est vraiment toute la ville qui se mobilise pour offrir aux participants, aux festivaliers, une belle expérience. Il y a également des commerçants qui font des ventes de trottoirs, qui décorent. C'est vraiment une semaine qui est à l'honneur et à l'image de la traversée.
Et puis là, ben évidemment, on est en plein dans les semaines de vacances là pour bon nombre. Enfin, les fameuses vacances de la construction, comme on les appelle toujours. Eh ben oui, donc il y aura beaucoup de gens au rendez-vous, bien sûr, qui vont voir aussi de la famille. Là, il y a tout un volet spectacle. Donc jeudi prochain, 27 juillet, entre autres Francis de Grandpré et Jannick Fournier. Jannick Fournier,
oui.
Très très populaire depuis ses prestations là. Oui, effectivement. Depuis quelques mois, oui.
qui est originaire, se targue de dire qu'il est originaire justement de Robertval. En plus, n'habite plus ici depuis plusieurs années, mais lorsqu'elle était petite, elle habitait notre ville. Donc, on est très heureux de l'avoir là pour cette édition-ci, qui fait rayonner en fait toute notre région partout au Québec, comme vous l'avez dit, là, avec le concours auquel elle a participé.
Exactement. Et vendredi, Sarah May et le groupe Clay and Friends.
Oui, c'est notre soirée qui va en faire bouger plus d'un, effectivement. Donc, on s'attend là, à une belle participation des jeunes et des moins jeunes.
Ah, c'est sûr. Ça, c'est vraiment pour... Là aussi, c'est très populaire. Des artistes très fort intéressants. Et samedi 29 juillet, ben là, Rock Voisine.
Oui, ben on va réaliser le rêve là, de plusieurs dames du secteur qui achètent des billets dans les qui ont jamais vu là, leur idole Rock Voisine. Donc, on a bien hâte de l'accueillir parmi nous. Et si je ne m'abuse, c'est la première fois que l'organisation accueille cet artiste-là.
Et puis, pendant ce temps-là, cette journée-là, ben ce sera le 32 km présenté par Rio Tinto. 69e traversée internationale du lac Saint-Jean. Jessica Tremblay, merci d'être venue nous en parler. Ça a été un plaisir.
Mais je vous remercie pour l'invitation.
Au plaisir et bonne semaine.
Merci, au revoir.
Et j'en profite, moi, pour vous souhaiter une bonne fin de semaine à tous et une bonne semaine, en fait, de belles semaines de congés si vous entamez vos vacances. Alors, on se retrouve, nous, lundi. Et oui, lundi 24 juillet, on sera là entre midi et 13h, aime l'été. Je vous souhaite donc un bon après-midi, bonne fin de journée et puis bonne fin de semaine et bonne semaine aussi à venir pour ceux qui seront en congés.